Deuxième semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction. Nous nous rendrons en Europe, en Afrique et en Amérique grâce à la richesse, la diversité des reportages de nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Un peu plus d'une semaine après le début de la Coupe du Monde de football, nous allons parler foot, non du foot business, mais du football populaire, celui qui est pratiqué au coin de la rue en quelque sorte, et qui est aussi un instrument politique, avec notre invité Michael Correa, qui vient d'écrire une histoire populaire du football aux éditions La Découverte. Bonjour Michael Correa.
Bonjour.
C'est en quelque sorte un contre-pied que vous nous offrez en cette période de Coupe du Monde avec votre livre, Une histoire populaire du football. C'est une autre vision du football que vous nous proposez. Dans ce livre touffu d'ailleurs.
Oui, c'est à la limite une contre-histoire, c'est vrai. Bah, le geste premier du livre, c'était de se dire, on dit toujours un peu que ce sont les gagnants, ou en tout cas les dominants qui écrivent l'histoire. C'est vrai que la grande histoire du football, tout le monde la connaît un peu, hein, les scandés par les grandes compétitions comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Là, avec la Coupe du Monde, avec aussi les grands héros légendaires comme Pelé ou Di Stefano, les grandes sélections nationales, les grands clubs européens, etc. Mais c'est vrai que c'est une certaine histoire du football qui est écrite par les institutions, entre autres, et qui est au service d'une certaine vision du foot qui est, je dirais, un football marchand, en tout cas un football.
Est-ce que vous appelez le football des marques ?
Oui, voilà, un certain football qui est vraiment assumé comme une culture de masse, en tout cas comme un divertissement marchand à part entière, quoi. Mais avec toujours aussi cette même rengaine en arrière-plan, qui est le sport, c'est quelque chose qui est apolitique, c'est pas quelque chose de... Faut surtout pas politiser le football. Donc moi, après, j'ai vraiment pris le contre-pied, je voulais écrire vraiment non pas une histoire des dominants, mais plutôt une histoire des dominés, et donc c'est pour ça que ça s'appelle une histoire populaire du football, donc c'est vraiment une histoire pas en bas. Mmh. Et donc le but, c'était de vraiment remettre au cœur du livre les différents acteurs et actrices de cette histoire du football, avec on va dire deux grands axes. Le premier sera vraiment de montrer comment, dès ses origines, dès le 19e siècle et même avant que le football soit standardisé, ça a été cette pratique là a été un creuset de résistance face à l'ordre établi. Que ce soit l'ordre patronal, l'ordre dictatorial aussi, l'ordre marchand aussi, mais aussi comment ça a été surtout un instrument d'émancipation pour tous les groupes sociaux qui ont été opprimés à travers l'histoire, que ce soit les ouvriers britanniques de la fin du 19e siècle, que ce soit les femmes, les peuples colonisés, les Palestiniens, etc. quoi.
Vous avez voulu, dites-vous, vous l'écrivez dans le livre, souligner ce qu'il y a de subversif dans le foot.
Oui, c'est vraiment ça, c'est que le football, c'est avant tout une pratique, hein, c'est vraiment se passer le ballon, et c'est, moi je parle un peu de langage corporel dans le livre. C'est vrai que ce langage corporel-là, il peut avoir une certaine dimension politique en fonction de comment ce groupe social se l'approprie. Donc ça va aller des féministes qui justement en pratiquant le football vont vraiment remettre en cause l'ordre masculin, parce que quand ça commence par exemple dès le début du 20e siècle, ne serait-ce que de voir une femme en short courir sur un terrain, c'est un geste qui est éminemment subversif dans ces sociétés occidentales qui sont encore très conservatrices. Ça peut être aussi l'histoire du dribble brésilien. Le dribble a aussi une portée politique, parce que c'est vraiment les Noirs qui vont pratiquer ce football-là face aux footballeurs blancs pour éviter un peu leur charge physique et le fait que les arbitres ne sifflaient pas la faute. Donc voilà, rien que le foot en tant que pratique, il peut déjà avoir cette dimension subversive.
Et c'est aussi, Michael Correa, un éloge du football de la rue. Et vous mettez en exergue dans un des chapitres de votre ouvrage une phrase du grand Johan Cruyff, grand joueur des Pays-Bas à l'époque des années 70-80, du grand Ajax d'Amsterdam par exemple. Johan Cruyff qui disait ceci dans l'Équipe Magazine du 13 décembre 2014, je trouve la phrase très belle. « J'ai appris le foot dans la rue, et si vous me faites l'honneur de m'avoir trouvé élégant sur un terrain, alors c'est que j'avais l'élégance de la rue. »
Oui, c'est une phrase qui est magnifique, mais qui dit aussi comment de nombreux footballeurs professionnels viennent vraiment de la rue. Donc il y a Johan Cruyff, hein, cette figure-là qui a toujours dit « j'ai appris le foot en jouant en bas de chez moi ». Il y a Maradona aussi qui vient vraiment des bidonvilles de Buenos Aires, qui lui a appris le foot sur un espace très particulier, qui est ce qu'on appelle en Argentine les potreros. Les potreros, c'est des terrains vagues qui ont un peu échappé à la rationalisation de la ville. Et il dira toujours « les plus purs moments de football que j'ai vécu, c'était sur ces terrains vagues, sur ces potreros, quand on jouait avec des poteaux en bambou et on jouait pour un sandwich et un coca, quoi. » Et encore aujourd'hui, hein, y a de nombreux footballeurs qui viennent vraiment de la rue. Je pense à des gens comme Pogba ou Dembélé qui sont aujourd'hui en équipe de France. C'est vraiment des gens qui ont pratiqué ce qu'on appelle vraiment, ce que j'appelle dans le livre, le football de pied d'immeuble, quoi. C'est vraiment du foot de rue de façon totalement informelle et hors cadre institutionnel.
Alors, parlons football, je veux dire, parlons Coupe du Monde, Michael, et écoutons ceci, la joie des Sénégalais après la victoire des Lions de la Teranga mardi face à la Pologne.
On est très content, on est très heureux d'avoir remporté la victoire. Vive le Sénégal, vive toute l'Afrique. Il faut aller loin, la Coupe à l'Afrique.
Burma, c'est le stress. J'arrive même pas à souffler, à respirer normal.
Brillons, croisons les doigts et envisagez une qualification pour le second tour.
Ça fait plaisir pour les Sénégalais, pour les étrangers vivant au Sénégal. La joie au Sénégal, c'est ça. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Vous avez les larmes qui viennent.
Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison.
Alors, réaction recueillie par notre correspondant à Dakar, Guillaume Thibault, Michael Correa. Beaucoup d'auditeurs nous ont écrit, comme chaque semaine, pour nous parler de l'actualité, notamment du football. Et certains d'entre eux nous ont parlé de leur expérience de football dans leur jeunesse. Par exemple, Fadel, qui nous écoute à Maroua, au Cameroun, écrit ceci. « Jouer au football, pour moi, c'était comme partir à l'école. C'était un devoir. Je me souviens, j'étais en quatrième, j'avais 12 ans et ça faisait 3 mois que j'étais dans un centre de formation de mon quartier. J'ai fait des économies, je me suis acheté mon maillot, mais j'avais plus d'argent pour les godasses, comme il dit. Donc son père lui a acheté des chaussures. Après moult désaventures, des chaussures de foot, j'imagine. Elias, qui nous écoute, lui, à Cotonou, le football, nous écrit ceci. Le football, il n'y a rien de plus beau. Quand j'étais enfant, n'ayant pas les moyens pour acheter un ballon, c'était de l'orange, des pamplemousses et même du citron qui nous servait de ballon. C'était magnifique, écrit-il. C'est la même chose pour Oumar, qui dit on jouait sans les chaussures et parfois aussi c'est des oranges et des pamplemousses qui nous servaient de ballon. Là, on est dans le football que vous décrivez dans votre livre.
Pour moi, c'est vraiment l'âme populaire du football. Elle se trouve dans la rue parce que, et c'est ça qui est la magie du football, c'est vraiment ça, c'est que déjà ces règles sont extrêmement simples. Hein. Il y a ce qu'on appelle les 17 lois du foot qui ont été standardisées en 1863 mais qui ont bougé que voilà vraiment très marginalement depuis cette époque-là. Et puis surtout, c'est ce que j'appelle moi une pratique pauvre, c'est-à-dire que juste pour jouer, il suffit d'avoir un ou deux copains en copine et un ballon, ou comme nous disaient les auditeurs, l'équivalent d'un ballon, et on peut déjà prendre du plaisir rien qu'à se passer ce ballon-là pour pratiquer le football, quoi. Et ça, c'est vraiment la puissance et un geste, enfin, c'est vraiment la puissance du politique du foot, elle se niche vraiment là, dans le sens où c'est ce qui fait que c'est quand même, aujourd'hui, le foot, c'est une expérience quasi universelle. Il y a très peu de pays, même les quelques pays qui sont restés un peu à la marge, comme les États-Unis, je pense, ou même la Chine sont en train d'aujourd'hui découvrir le football. Ça traverse aussi donc les nations, mais aussi toutes les générations, et puis aussi les genres. Il y a plus en plus de filles et de femmes qui jouent au foot. J'ai vu les derniers chiffres de la FIFA, on est à peu près à 30-40 millions de footballeuses pratiquantes dans le monde, donc ça devient vraiment un espèce d'espéranto un peu universel de ce geste-là, vraiment de se passer le ballon. Et c'est vraiment un plaisir qui est très simple, enfin on peut prendre du plaisir vraiment très simple, et c'est vrai que le plaisir, c'est souvent le premier pas vers l'émancipation.
Alors, nous reviendrons sur l'Afrique et sur la victoire du Sénégal tout à l'heure, à la fin de l'émission, Michael Correa. Mais parlons quand même tout de suite de quelque chose que je ne connaissais pas, je l'avoue, qui concerne le Sénégal. D'ailleurs, justement, c'est précisément le football de quartier. Mais ce qu'on appelle le football navetan.
Oui, c'est les navetan. Alors, je pense que les Sénégalais vont être contents d'écouter ça. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui est née dans les années 60, notamment dans les faubourgs de Dakar, hein, qui était vraiment encore à l'époque des bidonvilles. Et c'est vrai que donc navetan, ça vient du wolof. ça veut dire passer la saison des pluies. Donc c'est un football qui se pratiquait, ça commence en juin, ça se finit en septembre, octobre à peu près. Et c'est vrai que c'est quelques amoureux du ballon rond qui ont commencé, un peu pour occuper les jeunes, parce que donc c'est aussi la période des vacances scolaires, ont mis en place comme ça des équipes un peu informelles de quartier, quoi. Alors petit à petit, il y a un petit championnat qui s'est mis en place. Alors, ce qu'on gagnait, c'était quelques kilos de café et quelques oranges, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que dans les années 70, ce football interquartier a vraiment grandi, dans le sens où ça a été pris en charge par ce qu'on appelle les ASC, les associations socio-culturelles. ASC qui commençait à mettre en place, donc en même temps, des équipes de foot et aussi plein de petits projets socio-culturels autour. Donc, ça peut être des bibliothèques, ça peut être des spectacles de théâtre populaire, etc. Et donc, ça a tellement grandi qu'aujourd'hui, c'est quand même le plus gros réseau associatif du Sénégal. Ce sont les ASC. Hein, il y en a plus de 3000. Il y a aussi, on compte aujourd'hui plus de 500 000 footballeurs affiliés à des ASC. Donc, il y a un vrai championnat qui s'appelle aujourd'hui le National Pop, hein, qui est vraiment le grand championnat de foot, qui est suivi encore plus que la Ligue professionnelle de football. Hein. C'est vrai que l'institution, enfin la Fédération sénégalaise de football, elle est un peu dépassée là par ce football qui est organisé...
spontané.
Spontané, et qui est vraiment ancré, qui est vraiment ancré dans des quartiers, parce que au-delà des matchs de football... la compétition éliminatoire qui va affronter toutes les ASC. Comme je le disais, il y a plein de pratiques autour, donc on va aussi décorer le quartier, on va peindre sur les murs l'effigie des joueurs un peu stars de son équipe, on va mettre des guirlandes pour décorer, on va pratiquer aussi ce qu'on appelle le set sétal, hein. C'est une pratique aussi qui, c'est un mot aussi volop, c'est-à-dire vraiment nettoyer, c'est-à-dire qu'on va profiter pour collectivement assainir, nettoyer son quartier. Donc c'est aussi une façon, en fait, in fine, de se réapproprier son quartier par le foot, quoi. Et en fait, on voit vraiment comment derrière le football, il n'y a pas que le jeu, il y a aussi, il peut être aussi vecteur de société, de culture, et puis surtout, il peut vraiment faire communauté.
Sept jours dans le monde.
Avant de reparler football, Michael Correa, football populaire avec vous, partons pour les États-Unis maintenant, avec bien sûr la question des enfants immigrés mexicains séparés de leurs parents à la frontière au Texas, question qui a ému le monde entier et une grande partie de l'Amérique d'ailleurs. Anne Corpé à Washington mardi.
Ces pleurs sont ceux d'enfants de migrants séparés de leurs parents par la police américaine. Ils ont été enregistrés en cachette. Les journalistes qui ont pu entrer dans les centres d'accueil n'ont pas eu le droit de filmer ou d'enregistrer. Le sort de ces enfants émeut jusque dans les rangs du Parti républicain. La sénatrice Susan Collins demande que l'administration mette un terme immédiat à cette politique.
Cela va à l'encontre des valeurs américaines de séparer ces enfants de leurs parents, sauf quand il y a des preuves de maltraitance ou de très sérieuses raisons.
C'est depuis que le ministre de la Justice a mis en place sa politique tolérance zéro en avril que les familles sont séparées. Donald Trump assure que c'est le résultat d'une loi votée par les démocrates. Le président se dit même sensible au sort de ses enfants. Donald Trump.
Si les démocrates s'asseyaient, au lieu de faire de l'obstruction, on pourrait agir très rapidement. On pourrait mettre un terme à la séparation des familles. On est coincé avec ces lois horribles. Ce sont des lois horribles. Ce qui se passe est tellement triste, tellement triste.
La secrétaire à la sécurité intérieure l'a pour sa part certifié. Aucun enfant n'est maltraité dans ces centres d'accueil. Kirsten Nielsen a expliqué que les parents qui franchissent illégalement la frontière sont considérés comme des criminels et risquent la prison, qu'ils soient accompagnés de jeunes enfants ou pas. Comme la Maison Blanche, la secrétaire à la sécurité intérieure estime que c'est au Congrès d'agir.
Finalement, Donald Trump a cédé face à la forte contestation de cette décision, y compris dans son propre camp, après avoir lui-même signé le texte qui entraînait cette séparation et avoir dit, vous l'avez entendu, qu'il ne pouvait rien changer à cause des démocrates. Il a signé un décret interdisant cette séparation. De son côté, Melania Trump, l'épouse du président américain, s'est rendue dans un refuge pour enfants clandestins au Texas. Continuons à parler des migrants, mais cette fois en Europe, Michael Correa. Le défi migratoire en Allemagne est au cœur des tensions au sein même de la majorité d'Angela Merkel, au sein même de la coalition à Berlin. Pascal Thibault.
Le pire est provisoirement évité, l'alliance traditionnelle entre les conservateurs de la CDU et le parti frère bavarois CSU n'a pas implosé, et avec lui, la coalition au pouvoir à Berlin. Mais les querelles et les dommages collatéraux demeurent. Angela Merkel se voit imposer un ultimatum de 2 semaines par son allié bavarois pour parvenir à un accord avec d'autres partenaires européens pour que ces derniers reprennent les migrants déjà enregistrés chez eux. Faute de compromis, qui paraît des plus difficiles à trouver dans une Europe divisée sur ces questions, la CSU et son ministre de l'Intérieur veulent refouler aux frontières allemandes les migrants venant d'autres pays. Angela Merkel reconnaît être sous pression, mais réitère sa volonté de privilégier une solution avec ses voisins au lieu d'une décision unilatérale. Faute d'accord d'ici 2 semaines, la chancelière ne veut pas automatiquement accepter la mise en place des mesures unilatérales de son ministre. Le conflit qui déchire les conservateurs allemands n'est donc que provisoirement enterré. Il risque de rebondir de plus belle début juillet.
Et c'est donc dans ce contexte qu'a eu lieu mardi un sommet franco-allemand important près de Berlin. Anastasia Becchio.
Angela Merkel comme Emmanuel Macron restent persuadés que la meilleure réponse à la crise des migrants ne peut être qu'européenne. Mais face à une union divisée sur la question et avec une aile droite de son gouvernement qui menace de faire éclater sa coalition, la chancelière allemande envisage d'autres pistes.
Nous souhaitons œuvrer de façon coordonnée, de préférence au niveau européen, ce qui n'est pas facile, et c'est pourquoi on peut envisager une coopération avec certains pays.
Une coopération entre plusieurs pays de l'espace Schengen destinée à permettre aux États de refouler tout demandeur d'asile vers le pays où il a été enregistré en premier, comme l'a expliqué le président français Emmanuel Macron.
Nous allons travailler ensemble pour aussi une solution intergouvernementale ou multi-intergouvernementale avec plusieurs États membres qui sont concernés. Et donc, il conviendra que dans ce cadre-là, dans la relation bilatérale, la France et l'Allemagne s'assurent que celles et ceux qui sont enregistrés dans le premier pays de la zone Schengen puissent être repris le plus vite possible dans le pays où ils ont été enregistrés. C'est la philosophie que nous défendons l'un et l'autre. Et nous allons avancer avec tous nos partenaires sur ce sujet.
Reste à s'accorder avec les pays de premier accueil, l'Italie et la Grèce, et dans une moindre mesure l'Espagne. Emmanuel Macron recevra samedi à l'Élysée Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol.
Samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, pays au cœur de cette question migratoire, l'Italie. Le nouveau ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, a annoncé la fin du bon temps, entre guillemets, pour les migrants. Une déclaration qui claque comme une provocation à San Ferdinando, un camp au sud de l'Italie, où s'entassent des migrants qui récoltent des agrumes dans la plaine. Le 2 juin dernier, Sacco, un jeune malien de 29 ans, a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il récupérait des tôles pour le campement. Aujourd'hui, les migrants réclament justice. Reportage en Calabre de Frédéric Lebel.
La justice pour Sacco, annonce la banderole que sont venus dérouler une dizaine de migrants devant le conseil général de Reggio de Calabre. Radim est sénégalais, syndiqué, tout comme l'était Sacco.
Ça a choqué tout le monde. Il était un gars sérieux. Il a laissé sa femme et un enfant au Mali. Ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui. Donc ça, c'est dur quoi, c'est dur.
Sacco défendait les migrants qui travaillent dans la plaine. On y cultive des agrumes et des kiwis. Pas de contrat de travail, payer 25 euros la journée de 10 heures ou 1 euro la cagette de mandarine. Des journaliers exploités qui s'entassent dans un camp insalubre, San Ferdinando. C'est là qu'on retrouve Ali, un jeune gambien de 21 ans. Il est sans papier et épuisé.
Oui, c'est... On reste assis à attendre et ils viennent choisir ceux qui vont travailler. Mais ils ne vous paient pas ce qu'ils vous doivent. On travaille de 7h du matin à 7h du soir. Et je peux vous dire qu'on souffre ici.
Sa baraque en tôle et en carton se trouve près d'un grand tas d'ordures. Il n'y a ni eau ni électricité. Pour cuisiner, on fait du feu. Au début de l'année, une jeune Nigériane est morte dans un incendie. Le dernier rapport de l'ONG Médecins pour les droits humains qui travaille sur place a pour titre « Les damnés de la terre ».
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Michael Correa qui vient d'écrire une histoire populaire du football aux éditions La Découverte. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les réfugiés et le football tel qu'il vous intéresse, c'est-à-dire sur le plan populaire tout simplement?
Oui, oui, bien sûr, il y a eu plein. Il y a une vraie politique d'accueil qui se fait aujourd'hui dans pas mal de petits clubs en Europe. Alors bon, c'est vrai que déjà l'Allemagne qui a vraiment un peu ouvert ses frontières dès 2015 pour les migrants, la fédération allemande a accueilli près de 7 700 000 nouveaux adhérents, donc qui étaient des migrants. Je pense aussi au club de Saint-Pauli à Hambourg, hein, qui a toujours eu cette dimension un peu antiraciste, antifasciste, qui a créé avec une poignée de réfugiés une petite équipe, hein, qui s'appelle le FC Lampedusa, pour en hommage un peu à l'île sur laquelle ils ont débarqué en Italie, qui est aujourd'hui vraiment dans le championnat amateur allemand, quoi. Et donc c'était vraiment, en tout cas la fédération allemande a été très intelligente parce que elle a vu que c'était une très bonne façon d'intégrer les migrants au sein du pays, et puis ça a permis aussi un peu de revivifier tous les petits clubs amateurs en Allemagne, quoi. En Italie, je sais qu'il y a quelques temps il y a eu ça aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui en France il y a un peu, il commence à un peu avoir une lutte pour que la FFF justement accepte que les petits clubs amateurs accueillent en leur sein notamment pas mal de mineurs, ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés, quoi, des jeunes migrants qui sont un peu désolés, quoi. Je sais que à Brest par exemple, je connais 2-3 petits clubs qui accueillent comme ça jusqu'à 80 enfants, et c'est vrai que c'est une bonne façon pour eux, bah, déjà de les occuper. Ça permet aussi un peu, ne serait-ce que le temps d'un match, d'un peu oublier ses soucis et toutes les tracasseries administratives. Et puis voilà, c'est aussi des jeunes enfants, voilà, qui sont passionnés de football, qui adorent jouer au football. Et comme je disais dès le début, le football, c'est un langage universel. Et c'est vrai que c'est un super terrain d'entente pour rencontrer du monde, un peu s'intégrer, et puis commencer à tisser des amitiés aussi.
Alors, dans ce livre qui est absolument passionnant, c'est un gros travail, et d'ailleurs c'est un gros livre, vous parlez du rôle que le football a voulu jouer face aux dictatures, face au totalitarisme même, vous parlez d'une actualité plus récente, comme des printemps arabes, par exemple, et vous mettez l'accent, vous consacrez quelques pages à un club égyptien qui a joué un rôle, à sa façon, dans le soulèvement populaire de 2011.
Oui, c'est vrai que c'est une histoire qui est très peu connue, mais il y a un acteur essentiel des printemps arabes en 2011, que ce soit en Tunisie, mais aussi surtout en Égypte, hein, je me suis plus focalisé là-dessus dans le livre, ce sont les supporters. Faut savoir que en 2005-2007, il y a une culture, ce qu'on appelle la culture ultra, qui est une espèce de supporterisme un peu radical, qui est né dans l'Italie des années 70, donc qui débarque en Afrique du Nord par le biais d'Internet. En fait, les jeunes vont découvrir cette culture-là, qui est une culture où on va vraiment s'investir corps et âme pour son équipe. On va chanter pour elle durant 90 minutes, on va mettre en place ce qu'on appelle des tifos, ça veut dire des animations visuelles. Bref, c'est vraiment un mode de vie à part entière, où on fait aussi très fortement communauté, c'est-à-dire qu'on va manger ensemble, faire les déplacements collectifs ensemble, se déplacer au
stade. Une famille, en quelque sorte.
Ouais, il y a vraiment cet esprit de famille. Ça débarque en 2005-2007, notamment au Maroc et en Algérie, et c'est vrai qu'en Égypte, un des grands groupes ultra qui va naître, ça va être au sein du plus grand club populaire d'Égypte, donc qui est basé au Caire, qui s'appelle Al Ahly S1, c'est un des plus grands clubs d'Afrique à l'heure actuelle. Et c'est vrai que très rapidement, on va quand même avoir un groupe ultra de 5 à 10 000 jeunes, entre 15 et 25 ans, hein, qui vont se réunir donc tous les week-ends au stade, quoi. Et c'est vrai que très rapidement, donc on est à l'époque, l'Égypte est à l'époque sous le joug du dictateur Moubarak, et c'est dans les stades qu'on va entendre pour la première fois ces ultras-là, donc vous commencez à lancer pour la première fois des slogans contestataires vis-à-vis du régime.
Il y a un peu la même chose en Turquie d'ailleurs, Michael Correa. Vous le développez aussi dans le film avec
C'est exactement la même dynamique. Là, c'est cette fois-ci, c'est encore une fois à Istanbul, avec un autre club qui s'appelle le Beşiktaş. Hein. C'est le troisième club d'Istanbul après le Fenerbahçe et le Galatasaray, qui est encore une fois un grand club populaire très ancré dans un quartier ouvrier. Et ce sont donc ces ultras, à la manière des ultras égyptiens, comme ils contestaient le régime dans les stades, ils vont subir une féroce répression policière. Mais c'est assez fou pour le régime, que ce soit en Turquie ou en Égypte. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à mettre en place des pratiques d'autodéfense face à la police. Et c'est vrai que quand le mouvement social éclate, donc que ce soit en Égypte en 2011 ou en Turquie en 2013, avec ce qu'on appelle le mouvement Place Gezi, le mouvement Taksim, hein, c'est un peu la première fois qu'on a vraiment contesté l'autorité d'Erdogan, les supporters vont vraiment descendre dans la rue et aider le mouvement social, qui subit lui aussi une répression policière assez folle, quoi. Donc ils ont vraiment inculqué ces pratiques de résistance face à la police, mais aussi toute la culture supporter, c'est-à-dire un certain art de la raillerie, déjà un art de l'insulte, et puis un art un peu aussi de la composition, c'est-à-dire que dans les tribunes, on est tous un peu différents, mais en même temps, on est tous derrière son équipe, et dans une lutte sociale, c'est pareil. À Taksim, on avait des musulmans, des laïcs, des gens de gauche, des kurdes, etc. On était très différents, mais il fallait qu'on compose ensemble pour un objectif commun qui était cette fois-ci non pas supporter son équipe, mais supporter ses revendications sociales.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour la France maintenant, Michael Correa. Et d'abord, une bonne nouvelle, c'est une information maison. RFI va pouvoir gagner des auditeurs dans le pays grâce à la radio numérique, figurez-vous. Elle commence à se développer dans l'Hexagone. Première ville concernée, Lille, Dominique Dezonnet.
Comparée aux ondes diffusées par les émetteurs classiques de la FM, la radio numérique terrestre ou RNT offre aux auditeurs une qualité de son et de réception remarquable. Vous pouvez ainsi dire adieu aux coupures et aux grésillements. L'écoute de votre station préférée vous suit partout, même lors de vos déplacements. La recherche des fréquences par ordre alphabétique des radios est grandement facilitée. À la condition toutefois d'acquérir un récepteur compatible qui ressemble comme deux gouttes d'eau à votre ancien poste de radio FM pour bénéficier enfin de l'affichage sur écran d'une pochette d'album, de la liste des programmes ou encore de la carte du trafic routier en direct à bord de votre véhicule. La France, qui était à la traîne depuis longtemps sur le déploiement de la RNT, compte dès ce lundi combler son retard en commençant par Lille et sa région avec le lancement d'une quarantaine de radios, dont RFI, en qualité numérique. Devrait suivre dans la foulée Strasbourg, Lyon, puis Nantes, Rouen, Bordeaux et Toulouse.
Et je vous rappelle que vous pouvez écouter RFI à Paris et dans la région parisienne sur le 89 MHz. Revenons au football avec le deuxième match de l'équipe de France en Coupe du Monde. Là, on reparle du football pro. Deuxième match contre le Pérou, jeudi, à Ekaterinbourg, où a eu lieu ce match. Reportage d'Antoine Grenier.
C'est à cette pression-là que les Bleus ont dû résister pendant 90 minutes. 20 000 supporters péruviens dans les travées de l'Ekaterinbourg Arena. Une ambiance à sens unique et une première mi-temps qui le fut tout autant, mais pour le 11 français. Le but de Kylian Mbappé à la demi-heure venant récompenser le travail offensif d'Olivier Giroud, remplaçant contre l'Australie, presque buteur face aux Péruviens, l'attaquant de Chelsea.
J'apprécie vraiment cette victoire 1-0 parce qu'elle montre aussi qu'on sait tenir un résultat et être tous ensemble solides défensivement. On a montré une vraie cohésion d'équipe et ouais, on était tous attendus après le match de l'Australie, ça, donc c'est très important.
Une première mi-temps référence dans cette Coupe du Monde avec des Bleus appliqués, précis, même s'ils ont un peu manqué de réussite devant le but. En revanche, la seconde période a été moins reluisante. Lucas Hernandez, le latéral, l'admet.
En première mi-temps, on était là. Et en deuxième mi-temps, on savait que le Pérou, il devait tout donner parce que sinon, ils étaient éliminés. Alors voilà, on savait qu'ils allaient se projeter tous en attaque et on a été là présent défensivement. Et après, offensivement, on a essayé d'avoir des petites occasions. Mais voilà, c'était surtout ça, d'être solide défensivement. On a fait un très grand effort aujourd'hui sur le terrain, ça s'est vu. On a été une équipe et voilà, je pense qu'on a mérité cette victoire.
Qualification pour les huitièmes en poche pour l'équipe de France face au Danemark, mardi à Moscou. Les Bleus joueront simplement la première place du groupe.
Et nous sommes tous au rendez-vous, surtout en écoutant le match sur RFI. Vous vous intéressez au football, au fait? Ma question peut paraître stupide alors que vous venez d'écrire une histoire populaire du football, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, non, je ne suis pas de très très près les grands championnats, etc. Après, je suis supporter d'une petite équipe qui est le Red Star de Saint-Ouen, qui évolue en National, qui est maintenant, on passe maintenant en Ligue 2.
Petite équipe, mais à la grande histoire.
Voilà, qui est une grande histoire. C'est quand même, c'est le deuxième plus vieux club de France après Le Havre. Le fondateur du club, c'est Jules Rimet, qui a été d'ailleurs l'initiateur de la Coupe du Monde. Et puis on a eu aussi beaucoup. Le club a toujours subi un peu les grands tumultes de l'histoire, dans le sens où on a eu un joueur assez célèbre qui s'appelle Rino de la Negra, qui s'est engagé pleinement dans la résistance en 39-45, et notamment au sein du groupe Manoukian. Il est mort au Mont Valérien en 1944. Voilà, c'était un ailier droit du Red Star, fils d'immigrés italiens et ouvrier ajusteur à Argenteuil. Puis voilà, tout au long des grandes luttes, des grands moments de l'histoire, il y a toujours eu le Red Star qui était un peu là en ligne de fond.
Donc à Paris, il y a le Paris Saint-Germain et il y aura bientôt le Red Star qui est en ligne de fond.
C'est l'anti-PSG un peu, voilà. C'est ça. Ce qu'on dit à Paris.
pourvu que ça dure, mais ça, oui, ça ne concerne que moi. Puisqu'on parle beaucoup des commémorations de mai 68, Michael Correa, dans votre livre, vous parlez aussi de la France. Vous revenez sur la révolution, en quelque sorte, de palais qu'il y a eu au sein de la Fédération française de football en mai 68. Et dans les mois et années qui ont suivi.
Oui, oui, c'est vrai que, on dit toujours qu'il y a eu un mai 68 étudiant, un mai 68 ouvrier, mais il y a eu aussi un mai 68 des footballeurs. Parce qu'il faut savoir à l'époque, alors aujourd'hui, on parle toujours des footballeurs professionnels abreuvés de 2 millions d'euros, mais c'est vrai qu'il y a une vraie lutte des footballeurs en tant que travailleurs pour avoir des, ne serait-ce qu'un contrat qui suivait le règlement du travail. C'est-à-dire que avant 68, les footballeurs avaient, en tout cas les footballeurs professionnels français, signé un contrat qu'on appelait le contrat à vie. C'est-à-dire qu'ils étaient pieds et mains liés à leur club jusqu'à l'âge de 35 ans. Et 35 ans, c'est déjà la fin de la carrière sportive pour un footballeur. Et c'est vrai que c'était un contrat d'ordre, ce que disaient les footballeurs, même esclavagiste, parce que ils pouvaient pas décider de partir ou pas de leur club, ils pouvaient pas négocier leur salaire, etc. En 63, il va y avoir le fameux Raymond Coppa, qui était un footballeur, plutôt bien vu par la Fédération française de football.
Et pour cause.
Grand joueur, mais aussi il incarnait une certaine figure du footballeur humble, travailleur. C'était quelqu'un qui était issu de l'immigration polonaise, qui était passé par les mines du Nord aussi. Mais il s'est révolté donc en juillet 63 au sein d'un journal où il dira un jour, aujourd'hui, le seul homme qui peut être vendu comme un esclave, c'est le footballeur professionnel. Et ce contrat à vie, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable aujourd'hui en France, quoi. Donc cette lutte, elle va être relayée par quelques journaux, et notamment par Le Miroir du football, qui est un espèce de journal très particulier, une espèce de bastion un peu de gauche dans la presse sportive de l'époque.
Hein, qui avait une conception du football très particulière, un football offensif,
le football créatif, offensif, qui est synonyme de plaisir à la fois pour le joueur et pour le public. Et c'est vrai que Le Miroir du football va se faire le relais aussi de cette lutte-là des footballeurs professionnels pour avoir un vrai contrat, non plus un contrat à vie, mais un contrat à durée déterminée. Alors c'est vrai que quand 68 éclate, ces journalistes-là du Miroir du football et quelques joueurs amateurs, mais aussi deux joueurs du Red Star de Saint-Ouen, vont avoir l'idée un peu folle d'occuper le siège de la Fédération française de football. Et donc pendant 5 jours, la FFF va se transformer en véritable agora démocratique. On va hisser un drapeau rouge sur la façade de la
68,
FFF.
Quoi.
Voilà, on est vraiment dans l'esprit, dans les pratiques de 68. On va mettre aussi une banderole, le football appartient aux footballeurs. Et c'est vrai que suite à ces 5 jours de lutte, en 69, la Ligue de football professionnel va abolir le contrat à vie et va mettre en place un vrai contrat à durée déterminée qui est toujours en acte aujourd'hui.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Vous pouvez aussi nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Babacar et Augustin qui nous écoutent au Sénégal. Bonjour à Mahamat Moussa en Côte d'Ivoire, à Mbouma Midjo au Congo-Brazzaville, à Mamandou Bello en Guinée-Conakry. Salut à Nicolas dans le sud de la France, à Elias au Bénin et au club RFI en République démocratique du Congo.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique en Côte d'Ivoire après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit de lundi à mardi. Elles ont fait de gros dégâts dans le quartier de Cocody Riviera, notamment. Reportage de Stéphanie Aglietti.
C'est un paysage de désolation qu'offre la cité Alhambra Réconciliation à Riviera 3. Des pans de murs à terre, des voitures éventrées encastrées les unes dans les autres. Le torrent de boue et de détritus qui a surpris les habitants dans leur sommeil vers 3h du matin a tout dévasté sur son passage. L'eau a atteint environ 1,50 m et poussé des familles entières à se réfugier sur les toits de leur maison. Afoué Kwame a été sauvé par ses petits-enfants qui l'ont fait monter sur le mur entourant sa maison.
Ils nous ont fait monter en haut là-bas, c'est là. Dieu nous a sauvés. On a pris sortir, mais tout est gâté. On ne peut rien récupérer. Tout dossier, tout est gâté. Sa voiture, c'est parti là-bas. L'eau l'a envoyé, tout est gâté.
Les traits tirés et la robe recouverte de boue, Mariam Meïté, une mère de famille, est encore sous le choc de cette nuit d'enfer.
Ma petite là a dû nager pour sortir.
Mais là, parce que les portes étaient verrouillées, il fallait qu'on casse. Parce que le courant commençait à nous secouer les jambes. D'abord, pour sortir de la chambre, c'était compliqué. Il fallait pousser, puisque la force de l'eau, il faut vivre quoi pour comprendre.
Mariam déplore que les secours n'aient pas pu accéder à la cité avant plusieurs heures. Selon les habitants, au moins une personne a perdu la vie dans la résidence. En bordure de la cité, dans les boutiques attenantes, même désolation. Sur les trottoirs, des articles maculés de boue s'entassent devant les échoppes. Chaque année, on est inondé, soupire une commerçante. Mais cette fois-ci, c'est du jamais vu.
Partons pour le Togo maintenant, dans une semaine d'actualité où lundi avait été décrétée journée Togo mort par l'opposition pour protester contre la répression du gouvernement et pour arrêter ce qu'elle qualifie de persécution infligée aux militants et aux responsables de partis politiques. Fin de citation à Lomé. Mardi, Peter Dogbé.
La vie a repris son cours depuis hier après-midi, après une matinée morose dans les activités à travers le pays. Plusieurs boutiques et magasins sont restés fermés aux premières heures de la journée de lundi. C'est à l'appel de la coalition de l'opposition aux populations de rester chez elles pour une opération Togo mort. En fin de journée, voici le bilan que dresse la coordinatrice de la coalition, Brigitte Kafuya-Jamago-Johnson.
Nous sommes satisfaits parce que les populations togolaises se sont fortement impliquées et ont respecté le mot d'ordre de Togo mort. On espère que le régime entendra ce signal fort que nous avons envoyé encore une fois.
Le mouvement des femmes de l'Union pour la République, partie au pouvoir, a quant à elle appelé les femmes à la veille de cette opération à vaquer à leurs occupations. Lundi soir, pour Raymond Kailosson, la déléguée nationale du mouvement, c'est encore un échec pour l'opposition.
Notre appel a été entendu par la majorité de la population, donc nous sommes satisfaits. Il y a un ras-le-bol, vous savez, nous sommes dans une phase de dialogue. On ne peut pas faire un pas en avant et deux pas en arrière.
Dans l'ensemble, l'administration centrale, les banques, les assurances, bref, les cols blancs ont travaillé pendant que le secteur informel est resté fortement perturbé.
Le Congo maintenant, une action humanitaire a commencé lundi en faveur de la population du Pool grâce à un financement de l'Union européenne. Le Pool, victime des violences de la guerre civile de la fin des années 90, le Pool que l'on appelait autrefois la locomotive du Congo. Alors au cœur de cette région, à Banza Ndunga, le reportage de Loïcia Martial.
La route carrossable qui relie Brazzaville à Banza Ndunga est totalement défoncée, jalonné par de dangereux ravins. En Banza Ndunga, district de 7000 habitants, au moins 100 tonnes de vivres ont été distribuées en début de semaine par les humanitaires. La population qui dépend essentiellement de l'aide depuis la fin des hostilités dans le Pool souhaite pouvoir relancer ses activités agro-pastorales par ses propres moyens. C'est ce que le sous-préfet, Saphorie Banimba, appelle le relèvement.
J'ai demandé que les donateurs puissent plutôt penser à favoriser des activités qui pourront faire que ces populations se reprennent en charge elles-mêmes. Voilà, le vrai besoin, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le relèvement.
Après la crise sécuritaire dans le Pool, tout pose problème. L'abri, l'eau potable et l'électricité, comme l'explique Paraclet Mutsila, curé de la paroisse de Banza Ndunga.
Ceux qui sont partis en rentrant, ils n'ont plus rien trouvé. Des maisons détruites, des plantations détruites, même l'élevage, il n'y avait plus rien, même pas une poule. Et maintenant, vous voyez ce peuple-là qui revient, comme je dis, qui se refait avec rien.
Selon le curé, le Pool attendra longtemps pour se refaire et retrouver son statut de grenier du Congo.
À noter aussi cette semaine au Cameroun, l'annonce d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence aux deux régions anglophones d'un montant de près de 13 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 20 millions d'euros. C'est un tournant puisque jusqu'ici, ce conflit anglophone n'avait été abordé que sous l'angle sécuritaire par les autorités camerounaises.
Sept jours en Afrique.
Avant de vous retrouver, Michael Correa, terminons notre voyage africain au Sénégal. D'abord, pour vous rappeler l'adoption par les députés de la nouvelle loi qui instaure de nouvelles règles pour être candidat à toute élection, notamment présidentielle. Sénégal ensuite, pour revenir sur la victoire des Lions de la Teranga en Coupe du Monde, donc face au Japon, mardi 2-1 à Dakar, Guillaume Thibault.
Est-ce que ça va ?
Un grondement intense, une vibration sur toute la place de l'obélisque. Les supporters ont attendu la 38e minute et le premier but des Lions pour respirer. Et admettre qu'Aliou Cissé, le sélectionneur, a fait les bons choix pour mettre son équipe sur orbite.
Il n'a jamais fait l'unanimité au Sénégal où il y a 14 millions d'entraîneurs, mais aujourd'hui, il a vraiment montré qu'il peut marquer des buts, qu'il peut conserver ce but. Brillons, croisons les doigts et envisageons une qualification pour le second tour.
Mais le fan sénégalais qui a fait de la place de l'obélisque son QG a du mal à se libérer, malgré un second but censé jouer ce rôle. Seul le coup de sifflet final libère la foule et les experts le pensent, le Sénégal nouveau est arrivé.
Maintenant, ils ont mis la gnaque, ils mettent la force, ils mettent la précision sous les passes. Maintenant, j'ai compté plus de 13 passes avant la but. Et avant, ils ne faisaient même pas 5 passes, c'est ça.
C'est le nouveau Sénégal.
C'est le Sénégal New Look.
Ambition, vitesse, cohésion, collectif soudé, autant d'atouts que l'équipe du Sénégal a utilisé. Il faudra recommencer dans 4 jours, dimanche, 15h TU, contre le Japon.
Alors cette victoire nous a valu un flot de messages. Je salue par exemple Galois Dakar, Sita Sikasso, Junior Rocha, Abdallah, Oumar à Conakry qui sont tous red dingues de l'équipe du Sénégal. Je salue également Mokhtar qui nous écoute à Richard Toll au nord du Sénégal précisément. Il souhaite un bon vent au lion de la Teranga. Bien sûr, et il pose une question dans son message. À votre attention, Michael Correa, ne pensez-vous pas que le football actuel n'est plus populaire car la chose politique s'y est glissée jusque dans ses interstices?
Oui, c'est une bonne question. Après, je pense pour moi que le football et le politique étaient liés dès le début. Voilà. Dès que le football a été né, c'est vrai que les grands capitaines d'industrie ont vraiment pris en charge le football et ont commencé à mettre en place les premières compétitions. Mais c'est aussi le pouvoir a très vite compris aussi le pouvoir mobilisateur pour les foules. Quoi. Le premier vraiment qui a fait ça, c'est dans le cadre de la Coupe du Monde qui plus est, ça va être Mussolini. Hein, donc c'est vrai que cette deuxième Coupe du Monde de 1934, c'est la première fois qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre, voilà, un peu hors norme et un peu innovant pour l'époque. Ça veut dire que on va appeler des médias de masse, on va mettre en place, on va appeler aussi plein de traducteurs pour traduire en plusieurs langues pour que ça puisse être suivi à l'échelle européenne ou mondiale. Dans les stades, on va pas mettre l'hymne de l'Italie, mais plutôt l'hymne du parti national fasciste. Mussolini va même donner sa propre coupe. Il va pas donner la coupe du monde, mais sa propre coupe. Et c'est vrai que il va très bien comprendre comment ça peut être un outil de propagande politique, à tel point que même Hitler en 36 va vraiment s'inspirer, enfin les fameux JO de 36 de Berlin. Hitler va vraiment s'inspirer de toutes ces pratiques-là que Mussolini avait mis en place durant la Coupe du Monde de 34.
Alors il faut rappeler que le football et l'Afrique, c'est une longue histoire d'amour. En vous disant ça, je lis en même temps un message de Junior qui nous écrit au Tchad et qui dit que depuis la victoire du Sénégal, il est devenu fou. J'espère que ça s'est amélioré depuis. Il dort pas la nuit, dit-il. Une longue histoire donc entre le football et l'Afrique, notamment pendant la période de la décolonisation. Pense par exemple à l'Algérie.
Oui, bah en Algérie, c'est une histoire qui est assez fantastique. Hein. Faut savoir que vers la fin 1957, début 1958, donc on est en pleine guerre d'Algérie. Hein, le FLN se dit on est en train d'un peu de perdre une guerre aussi de communication, dans le sens où en France, la lutte indépendantiste n'est pas du tout connue. On parle encore des événements d'Algérie à l'époque dans la presse, quoi. Et au fait, le FLN va, enfin quelques cadres du FLN qui étaient d'ailleurs auparavant des grands amateurs de football, parce que c'est quelques-uns d'entre eux étaient dirigeants de clubs en Algérie, vont avoir donc cette idée géniale de se dire ce serait pas mal qu'on mette en place une équipe de football algérienne qui représente le FLN. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas piocher parmi des footballeurs sur le territoire algérien, ils vont aller chercher les meilleurs joueurs algériens qui officient en première division française, quoi.
Et notamment un certain Rachid Mekloufi.
Alors, Rachid Mekloufi, qui est quand même pas n'importe qui, ça commence à être une vraie star, donc il officie à Saint-Étienne. Hein. Il y a aussi pas mal de joueurs qui sont déjà présélectionnés pour porter le maillot bleu pour la Coupe du Monde, hein, parce que donc à l'été 1958, c'est la Coupe du Monde en Suède, donc il y a déjà 3-4 Algériens comme ça qui sont sélectionnés. Mais on va avoir donc un cadre du FLN qui va faire la tournée des clubs comme ça, et qui à chaque fin match va essayer de convaincre un joueur algérien de passer clandestinement rapidement la frontière, de rejoindre le gouvernement provisoire algérien à Tunis. Donc en avril 1958, la presse va découvrir que il y a 12 grands joueurs algériens qui ont disparu et on va les retrouver après donc à Tunis auprès du FLN.
C'est vrai que c'est une belle histoire, une belle aventure humaine et sportive que cette histoire. Et il y aurait aussi des tas de choses à raconter en Afrique subsaharienne au moment de cette décolonisation.
Oui, c'est vrai que les clubs ont été très rapidement des foyers de contestation de l'ordre colonial, hein, dans le sens où bon, au début c'est une belle histoire de retournement, dans le sens où au début c'est vraiment les puissances coloniales qui introduisent le foot, notamment avec les missions catholiques.
Hein. Ils imposent effectivement le sport.
Oui, voilà, c'est vraiment une façon. Ouais. On est encore dans l'archétype colonial du noir qui doit se muscler parce qu'il est trop faible. C'est vraiment l'archétype à l'époque. Et c'est vrai que le football, ça permet un peu de muscler les corps, mais aussi de les discipliner et aussi d'apprendre l'obéissance au chef, l'autorité, etc. Qu'est-ce qui va se passer en 46 après-guerre, comme les territoires colonisés par la France se sont rangés du côté de la France libre, pour un peu les remercier, la 4ème République va leur donner le droit d'association et la liberté de se syndiquer. Donc très vite, on va avoir plein de petits clubs qui vont être mis en place par les Africains. Donc ça va être au Sénégal, au Togo, ça va vraiment exploser. Et c'est vrai que on va commencer à se dire, si on peut se gouverner nous-mêmes au sein d'un club, on peut se gouverner aussi, on peut gouverner aussi le pays. Ça a vraiment de servir un peu de laboratoire populaire pour un peu s'exercer au pouvoir. Et puis après, il va y avoir aussi tous les matchs avec une rivalité symbolique assez forte, où on va avoir des équipes de noirs qui vont affronter des équipes françaises. Je pense notamment au Congo belge, où on va avoir un fameux match sur 57 entre une équipe locale congolaise et une équipe de Bruxelles. Donc l'équipe noire ne va pas gagner, mais c'est dû aussi à une erreur d'arbitrage et ça va un peu se finir en grande révolte dans les tribunes, et beaucoup d'historiens vont dire ça va un peu préfigurer les grandes émeutes au Congo belge des années 60. Quoi.
Alors on pourrait effectivement aussi parler d'Afrique du Sud. Hein. Enfin, il y a plein d'exemples dans votre livre qui est très riche. Et je voudrais terminer sur une citation qui, et là on revient au début de l'émission, d'un entraîneur de club amateur qui dit, et vous terminez le livre avec ça, qui dit ceci: le premier plaisir pour un joueur qui fait du foot de rue, c'est sa relation entre lui, le ballon et ses potes de quartier, rappelle donc cet entraîneur, que ce soit dans les favelas à Rio ou dans les quartiers en France, le plaisir est exactement le même, parce que le street foot, c'est son expression, ça rime avec un ballon, un terrain et tes potes, et là le monde, il est à toi.
Ouais, voilà, c'est une belle phrase c'est vraiment la dernière phrase du livre, et ça revient
un peu
à l'origine même du football, ce football de rue et cette pratique simple, et du fait que justement on peut prendre du plaisir, et c'est justement aussi, donc pour revenir un peu à ce qu'on disait au début sur le foot business, moi je pense que c'est quelque chose que le foot business ne pourra jamais s'accaparer, c'est ce plaisir simple justement. Tout l'argent du monde ne pourra jamais acheter ce plaisir simple de se passer un ballon entre copains et copines.
Merci Michael Correa, il faut lire votre livre en ce moment, d'ailleurs en regardant les matchs de la Coupe du Monde à la télévision.
Ça peut être, bon, rien de regarder la pub, on peut regarder ça.
Exactement, rien n'empêche. Votre livre s'intitule Une histoire populaire du football, il est publié aux éditions La Découverte, et suivre aussi les matchs sur RFI, évidemment. Une semaine d'actualité réalisée évidemment aussi par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Si du moins vous n'êtes pas en Afrique, si c'est le cas, vous pourrez suivre la Coupe du Monde de football, justement, et nous retrouver sur le site www.rfi.fr. Et dans Idée, nous vous proposerons une rediffusion de notre émission sur la séduction avec le philosophe sociologue Gilles Lipovetsky. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.